France Info.
Bonsoir à tous, bienvenue dans les informés de France Info à la télé, canal 27 de la TNT, à la radio et sur les réseaux sociaux, hashtag les informés. Avec nos invités, on va revenir sur l'actualité bien chargée de ce week-end, le changement de cap spectaculaire de Donald Trump, passé en quelques jours d'isolationniste à interventionniste, l'impuissance de l'ONU face au terrorisme qui tue aveuglément partout sur la planète. Pendant ce temps-là, en France, ça se castagne dans les meetings, ça enfarine et ça montre aussi les muscles, mais jamais une présidentielle l'assemblée aussi incertaine. Et puis c'est une promesse que François Hollande refourgue en quelque sorte à EDF, la fermeture de Fessenheim. En tout cas, elle n'aura pas lieu comme promis d'ici la fin de son quinquennat. Allez, c'est parti pour une heure de débat. Et les informés de France Info ce soir s'appellent Eugénie Bastier, journaliste au Figaro, rédactrice en chef politique de la revue Limite. Bonsoir.
Bonsoir.
David Boëry, éditorialiste au service économie et sociale de France Télévisions. Bonsoir.
Bonsoir.
Laurent Guèze, directeur de la rédaction du Parisien Magazine. Bonsoir.
Bonsoir.
Et François Ehrenwein, rédacteur en chef au journal La Croix. En deux jours, Donald Trump est donc passé d'isolationniste à va-t-en-guerre. En tout cas, on peut se poser la question depuis qu'on a découvert vendredi matin, un peu stupéfait, que l'Amérique avait décidé de frapper contre une base aérienne en Syrie, base de l'armée de Bachar al-Assad, d'où l'attaque chimique de mardi qui a coûté la vie à 87 villageois serait partie selon les Américains. Et puis ce matin, on découvre d'autres images, celles d'un porte-avions nucléaire américain qui change de cap et qui fait route vers la Corée du Nord. L'Amérique de Donald Trump montre ses muscles et elle provoque des réactions très diverses. Colère de Moscou, colère de l'Iran. Quel est le but de Donald Trump, François Ehrenwein?
Vous venez de le dire, c'est de montrer les muscles des États-Unis sur la scène mondiale. Et il a incontestablement réussi son opération. Les principales démocraties européennes ont salué l'action en Syrie. À mon avis, elles commenceront à être un peu plus prudentes à propos de la Corée du Nord. Mais en tous les cas, dans un premier temps, c'est un succès. Simplement, il faut être bien conscient que, à ce stade du débat, en tous les cas, il ne s'agit pas d'organiser la guerre. C'est une opération diplomatique pour montrer que les États-Unis pèsent sur la scène mondiale et comptent peser dans les mois qui viennent sur tous les terrains en cause aujourd'hui.
C'est un changement quand même spectaculaire, David Boëry.
Oui, justement, c'est un contre-pied qui risque de poser plus de problèmes à l'avenir pour Donald Trump, parce qu'on se souvient, c'était America First, l'Amérique d'abord. Sous-entendu, on va arrêter de s'occuper des problèmes du monde. Et puis, là, très très vite, il y a déjà cette première opération en Syrie. On laisse entendre qu'on va aussi s'occuper du cas de la Corée du Nord. Alors, c'est sans doute pas dans un premier temps pour intervenir, mais montrer qu'on pourrait le faire si besoin. Sauf que le vrai problème, c'est que stratégiquement derrière, d'un point de vue purement géopolitique, on n'est absolument pas sûr que l'administration soit prête à gérer cette nouvelle étape. Je rappelle juste que quand vous regardez le ministère de la Défense, il y a 53 directeurs civils qui doivent être nommés. Au jour où je vous parle, il n'y en a qu'un seul qui a été nommé. C'est le secrétaire à la Défense. Donc les équipes ne sont pas prêtes et on ne voit pas très bien quelle est la nouvelle stratégie géopolitique qu'il y a derrière.
Eugénie Bastier, ça vous étonne, ce changement de cap de Donald Trump ?
Oui, c'est assez stupéfiant pour quelqu'un qui prétendait aller vent debout contre l'interventionnisme à tout craint des néocons et notamment de Hillary Clinton qui, elle...
Ça a embarrassé d'ailleurs en France un peu, notamment Marine Le Pen,
oui, en effet,
etc.
Et tous ceux qui prônent en effet ceux qui luttent contre le droit d'ingérence. Et finalement, c'est vrai que c'est une décision, une espèce de diplomatie des balls, on pourrait dire. C'est-à-dire de mettre le poing sur la table et de montrer un peu qu'on en a. Et finalement, et peut-être aussi, on peut interpréter ça comme un exercice de politique intérieure aussi, c'est-à-dire de montrer que, contrairement à Obama qui avait brandi la ligne rouge mais qui n'avait jamais agi, lui n'a pas prétendu agir mais a agi véritablement. C'est un peu comme l'évangile qui dit celui qui dit mais ne fait pas et celui qui fait mais ne dit pas. Et Trump est un peu dans ce cas-là. Après, je remarque une chose quand même, c'est que cet épisode vient enfoncer un clou dans cette espèce de la grande idée qu'on avait que Poutine et Trump seraient deux alliés indéfectibles et que finalement Trump aurait été acheté par Poutine et qu'il aurait été vraiment qu'il devait quelque chose à Vladimir Poutine. Et là on voit bien avec cette action qu'il ne lui doit rien puisque il met en porte-à-faux son prétendu allié. Donc un geste d'indépendance qui lui aussi peut-être à avoir avec la politique intérieure des États-Unis.
Donald Trump imprévisible, Laurent Guez, c'est un peu ça le...
Écoutez, moi j'ai une réaction assez ambivalente, je le cache pas, parce que j'ai beaucoup de mal à m'indigner quand on porte un coup à Assad et à son régime. Donc d'une certaine manière, je peux pas vous le cacher, je me dis bon... Pas mal, il a bien fait de le faire. Et je puis en même temps, je me dis que la légitimité, évidemment, de cette opération, quel est le renseignement qui a conduit à prendre cette décision? Est-ce que c'est des renseignements, il n'en fait même pas confiance à ses propres organismes de renseignement. Donc il y a,
après les avoir beaucoup critiqués.
Donc effectivement, je suis ambivalent dans cette réaction et en même temps pas très surpris. Parce que, pour ma part, j'avais bien compris que ce président-là serait imprévisible et qu'il ne fallait pas chercher obligatoirement une grande cohérence. Et je pense qu'il n'y a pas de cohérence, il va y avoir peut-être un habillage. Et peut-être d'ailleurs que mes confrères vont essayer d'expliquer la logique de tout ça. Je ne pense pas qu'obligatoirement il y en ait une.
François Nonnevein.
Mais Rex Tillerson a vendu la mèche. Il a expliqué aux Nord-Coréens qu'il fallait qu'ils entendent le message syrien. C'est exactement ça. On montre ses muscles à ce moment de l'histoire. Mais encore une fois, les États-Unis ne sont pas prêts.
Il faut aussi quand même rappeler qu'en Corée du Nord, il y a Kim Jong-un qui n'est pas non plus un rigolo, en tout cas. Donc ça peut quand même être risqué, quoi.
Ces parties de poker comportent un certain nombre de risques, effectivement. Mais sur la situation proprement américaine, aujourd'hui, jamais... Donald Trump n'obtiendra du Congrès l'idée de multiplier les opérations extérieures simplement pour montrer ses muscles. C'était one shot, ça a été fait et salué pour tel.
En quelque sorte, détourner de sa route un sous-marin, enfin un porte-avions, c'est pas trop un problème, mais la suite pourrait en être un. On va continuer de parler des États-Unis et du changement de cap de Donald Trump, mais d'abord l'info à 20h10 avec Édouard Marguier.
Les propos tenus aujourd'hui par Marine Le Pen sont révisionnistes. Réaction du CRIF ce soir, le Conseil représentatif des institutions juives de France. La candidate du Front National a déclaré que la France n'était pas responsable de la rafle du Vel'd'Hiv. 13 000 juifs arrêtés à Paris en 1942. Selon elle, les responsables sont ceux qui étaient au pouvoir à l'époque, pas la France. Les infrastructures vitales et importantes sont sous haute sécurité en Égypte. L'armée est mobilisée après les deux attentats qui ont tué au moins 44 personnes dans deux églises coptes de Tenta et d'Alexandrie, alors que les membres de cette minorité chrétienne célébraient le dimanche des rameaux, attentat revendiqué par le groupe État islamique. En Suède, manifestation pour rejeter le terrorisme. 20 000 personnes ont défilé à Stockholm. Deux jours après l'attaque au camion Bélier qui a fait 4 morts et 15 blessés, dans l'enquête, l'auteur présumé montrait de l'intérêt pour le groupe État islamique, dit la police. Et puis une deuxième personne a été placée en garde à vue. François Hollande fait référence au présent. Pendant le centenaire de la bataille de Vimy dans le Pas-de-Calais, le nationalisme ne mène qu'à la guerre, dit le président de la République. Le Premier ministre du Canada était présent pour rendre hommage aux 3600 Canadiens tués en 1917. 20 000 personnes ont assisté à ces commémorations. Et ce 115e Paris-Roubaix est le plus rapide de l'histoire de la course. Vitesse moyenne, 45,2 km/h pour les coureurs. Ce record efface celui de 1964. Cette édition a été remportée par le champion olympique en titre, le Belge Greg Van Avermaet. Le Français Arnaud Démare se classe 6e.
France Info. 20h, 21h, les informés, Aurélien Accard.
Les informés de France Info ce soir, Eugénie Bastier du Figaro, David Boëry de France Télévisions, Laurent Guez, directeur de la rédaction du Parisien Magazine, et François Ehrenwein du journal La Croix. On parlait de Donald Trump qui change de cap et qui attaque donc la Syrie et qui menace en quelque sorte la Corée du Nord. Ce qui est intéressant, je voudrais vous le faire écouter, c'est la justification qu'a donnée Donald Trump peu après les frappes américaines contre cette base de Bachar el-Assad.
Assad a arraché la vie à des hommes, des femmes et des enfants sans défense. C'était une mort lente pour beaucoup d'entre eux. Même de magnifiques bébés ont été cruellement assassinés lors de cette attaque barbare. Aucun enfant de Dieu ne devrait jamais endurer une telle souffrance.
David Boëry, on a l'impression d'une justification un petit peu par l'émotion. Et c'est aussi là qu'on entend que si Barack Obama l'avait fait en 2013, en fait, personne n'aurait rien trouvé à redire.
Oui, alors ça c'est pour la lecture très politique, mais c'est vrai que du coup on peut se poser la question de savoir si le nouveau président américain, c'est en découvrant les images de ce bombardement qu'il a effectivement décidé ou pas d'intervenir. Justification, très bien, le seul problème c'est qu'on n'a toujours pas compris quelle était la suite. Donc là c'est une intervention pour dire il y a une ligne rouge à pas franchir, c'est inhumain, tout ce que vous voulez, mais quelle va être la politique américaine dans la région dans les semaines ou les mois qui viennent? On n'en a pour l'instant aucune idée et je ne suis même pas sûr que Donald Trump ait déjà une idée de la suite.
Laurent Guez.
Non, moi ça m'inspire une réflexion, c'est qu'il faut se méfier des héros de l'antisystème et de ceux qui sont les champions du bon sens. Je pense qu'une partie de l'Amérique, une grande partie de l'Amérique a voté pour Donald Trump. Au prétexte qu'il a du bon sens, qu'il défend des intérêts simples, ceux de l'Amérique. Et je pense que c'est une terrible illusion à l'épreuve du pouvoir. Et je pense que ça pourrait nous inspirer aussi, quant à nos candidats pour notre présidentielle à nous, de se méfier de l'antisystème, de croire que les choses, en fait, quand on a du bon sens, sont simples à régler. On va voir que pendant tout ce mandat de Donald Trump, s'il va jusqu'au bout, mais enfin il ira sans doute, on verra que le bon sens n'est pas une bonne boussole et qu'on ne voit pas encore sa diplomatie puisqu'il fait exactement le contraire de ce qu'il avait annoncé.
François Nadevagne.
Enfin, moi, je trouverais inquiétant que l'hyperpuissance, la première puissance mondiale, soit gouvernée à l'émotion. Effectivement, il y a lieu de s'indigner et d'agir, mais le champ de la politique, c'est pas la dictature de l'émotion. Et ça serait vraiment inquiétant si la politique mondiale était conduite par des affects, tour à tour, des réactions à tel ou tel événement.
Oui, c'est d'autant plus inquiétant que ce n'est pas préparé.
On a besoin de sagesse pour gouverner.
Eugénie Bastier.
Oui, d'ailleurs, les images de Nikki Haley, l'ambassadrice de l'ONU, qui montrait les photos d'enfants à la tribune, rappellent un peu celles de Colin Powell en 2003, qui montrait les images, enfin le petit tube qui était censé prouver l'utilisation d'armes chimiques, enfin la possession d'armes chimiques par l'Irak. Cette diplomatie de l'image, elle est très dangereuse. Et je remarque quand même qu'on est beaucoup moins sourcilleux sur la légalité des interventions internationales quand il s'agit des États-Unis que quand il s'agit de la Russie, où on nous a rebattu les oreilles sur la Crimée pendant des mois. On disait que Poutine avait fait un crime international en Crimée.
Tomber d'accord pour dire que la norme, c'est la légalité.
Il y a des exceptions, voilà. Mais sauf qu'on est un peu plus indulgent sur certaines exceptions que sur d'autres.
Justement, Eugénie Bastier, vous nous emmenez au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est un petit peu la question qu'on se pose dans ce contexte avec Donald Trump d'un côté et les Russes qui font un petit peu aussi ce qu'ils veulent en Russie. Et puis tous les attentats qu'on voit ces derniers jours, que ce soit en Égypte aujourd'hui ou à Stockholm. La question qu'on a envie de se poser, c'est est-ce que le Conseil de sécurité, il sert encore à quelque chose dans le contexte actuel où finalement chacun passe outre et vient juste témoigner dessus, François Nadevagne.
Il faut faire un petit point d'histoire. L'ONU a été fondée pour assurer la paix et la coopération entre nations.
En 1945.
À un moment donné où des phénomènes comme le terrorisme n'étaient pas sur le devant de la scène. Le terrorisme existait déjà dans certaines parties du monde, mais c'était pas le sujet de l'ONU. Donc c'est un système de régulation qui a du mal à intégrer l'apparition de la dissuasion du faible au fort, ce qui est en train de se passer sur la scène internationale, et qui est très mal armé pour conduire des actions pertinentes contre ces phénomènes-là. J'ajoute qu'il y a incontestablement un besoin de réforme du fonctionnement interne, indépendamment des finalités de l'ONU, avec ce droit de veto qui sert à tout et à n'importe quoi, c'est effectivement...
Surtout ne pas faire grand-chose, généralement.
Il faudrait sans doute aussi réviser quand même l'équilibre des pouvoirs, même si ça a tendance à nous arranger, nous Français, mais... Depuis la naissance de l'Organisation des Nations Unies, l'équilibre de la puissance des nations a bien changé et je pense qu'il va falloir mettre à jour à un moment donné tout ça. Quant à penser que l'ONU peut éviter des guerres, peut-être parfois, mais qu'il pourrait y avoir un gouvernement mondial, je pense que c'est une extraordinaire illusion de penser qu'on n'arrive pas à avoir une harmonisation européenne, mais alors un gouvernement mondial, on restera toujours dans une quête complètement impossible de cette entente.
On constate quand même que le terrorisme est un phénomène mondial qui touche tout le monde. Il y a eu l'attentat à Saint-Pétersbourg aussi la semaine dernière. Et or, on a l'impression qu'il n'y a vraiment plus du tout de réponse unique internationale.
Non, mais en même temps, c'est vrai que c'est logiquement, l'ONU ne sert pas à ça, parce que c'est vrai, on l'a rappelé, ça sert à régler des problèmes entre nations. Le terrorisme n'est pas à proprement parler, ne fait pas partie de ces problèmes à régler. Par contre, c'est vrai que, a priori, le terrorisme arrive toujours à s'insinuer dans les interstices, entre guillemets, des intérêts des uns et des autres. Parce que, en fait, quand on cherche bien dans le développement de l'islamisme, ça peut être utilisé pour des raisons politiques au niveau régional au Moyen-Orient, d'utiliser ça pour rétablir des influences dans la région. Donc, c'est dans ce sens-là que ça pourrait quand même être utilisé au niveau des Nations Unies. Mais dans ces cas-là, il faudrait aller beaucoup plus loin et oser, tout mettre sur la table et dire à certains pays qui ont pu développer certaines idéologies par intérêt personnel dans la région, de leur dire d'arrêter, par exemple. C'est compliqué.
Mais est-ce que finalement, Donald Trump fait-il pas ce que font les Russes ? Finalement, il agit en fonction de ses propres intérêts, même à l'ONU, Jeannie Bastier ?
Oui, enfin, surtout, enfin, en fait, si on regarde l'histoire de l'ONU, l'ONU a fonctionné, l'âge d'or de l'ONU, c'est les années 90, avec le droit d'ingérence qui est sacralisé en 1990 avec la résolution 4500. Et finalement, avec cette espèce d'idée pour laquelle a bataillé Bernard Kouchner, qu'on avait le droit d'intervenir dans certains pays en guerre avec une coalition internationale pour venir en aide aux victimes humanitaires. Et cette idée-là, on l'a beaucoup appliquée dans les 90, notamment dans les Balkans. Et cette idée-là est complètement morte. C'est-à-dire que ça marche dans un monde unipolaire, c'est-à-dire le monde des années 90 où le communisme s'est effondré et où finalement il n'y a qu'une puissance, une grande puissance, c'est les États-Unis. Et finalement, tous les intérêts convergent vers ceux qui sont dictés par l'agenda américain, mais à partir des années 2000, tout change. Et finalement, aujourd'hui, on est dans un monde multipolaire. Dans un monde multipolaire, l'ONU n'a plus d'efficacité et perd toute crédibilité, toute efficacité. Et aujourd'hui, le jeu diplomatique est aux alliances locales, entre des puissances locales. On l'a vu, l'Iran, la Russie en Syrie et les États-Unis avec d'autres puissances. Et l'ONU n'a plus de raison d'être.
Non, juste, je pense que sur le terrorisme, c'est plutôt les coopérations de police et de renseignements qui sont à court terme efficaces. La coopération entre les nations dans le cadre de l'ONU, c'est plutôt très en amont du terrorisme pour éviter les tensions qui peuvent un jour déboucher sur ces actes-là. Mais je crois que c'est quand même plutôt les Interpol ou les services de renseignement, etc., qui sont les plus l'échelon le plus adapté pour lutter contre le terrorisme.
Il y a
plus
que les Nations Unies.
Très en amont, c'est ce que je disais.
Allez, dans un instant, on va revenir en France et s'intéresser à la campagne présidentielle. D'abord, 20h20, l'info, Édouard Marguier.
Le Canada est né ici, dans le Pas-de-Calais, pour Justin Trudeau. Vibrant hommage du Premier ministre canadien pour commémorer le centenaire de la bataille de Vimy. Moment fort de la Grande Guerre, 3600 soldats canadiens y ont perdu la vie. Ces attentats sont lâches, réagit ce soir le Conseil de sécurité des Nations Unies. Deux attaques ont tué 44 personnes en Égypte dans des églises coptes à Tenta et à Alexandrie. Acte revendiqué par le groupe État islamique 3 semaines tout juste avant l'arrivée du pape François dans le pays. Syndicats et anti-nucléaires dénoncent un enfumage après la publication du décret qui prévoit la fermeture de la centrale de Fessenheim. La doyenne du parc nucléaire français, les premiers estiment qu'il s'agit d'une ultime provocation du gouvernement. Les seconds regrettent les conditions. Fessenheim fermera quand l'EPR de Flamanville sera mis en service, pas avant 2019. Pour Ségolène Royal, c'est dit, c'est fait, référence à la promesse de François Hollande. Une foule insoumise à Marseille. 70 000 personnes ont assisté au meeting de Jean-Luc Mélenchon cet après-midi, selon les chiffres de son équipe. Sur le Vieux-Port, en regardant la mer, le candidat a fait observer une minute de silence en mémoire des migrants disparus en Méditerranée. Comment est-ce possible que tu sois devenu ce cimetière ? S'est-il questionné. Le Stade toulousain n'a presque plus d'espoir de jouer les phases finales du top 14 de rugby. Lourde défaite des Toulousains à Toulon cet après-midi. 33-23, il se retrouve 12e au classement. Le Racing 92, quant à lui, revient dans le top 6 en battant son concurrent direct, Pau, sur le score de 34-32.
France Info. 20h, 21h. Les informés, Aurélien Carr.
Les informés de France Info ce soir, Eugénie Bastier du Figaro, David Boëry de France Télévisions, Laurent Guez du Parisien Magazine et François Ehrenwein de La Croix. Dans deux semaines, jour pour jour, les bureaux de vote seront fermés. On attendra avec une certaine fébrilité les résultats du premier tour de cette élection présidentielle qui décidément est pleine de surprises. En 2007, le slogan du gagnant, c'était « Ensemble, tout devient possible ». Et cette année, l'idée, c'est effectivement que tout a l'air possible dans cette campagne parasitée par les affaires où l'on parle bien souvent plus du buzz que du fond. Et dans ce contexte, il y a une valeur sûre tout de même, c'est le meeting. Plusieurs dizaines de milliers de personnes à Marseille aujourd'hui pour Jean-Luc Mélenchon, 18 000 spectateurs pour François Fillon à Paris tout à l'heure et 400 personnes ira à Ajaccio pour suivre Marine Le Pen après des affrontements au Palais des Congrès. Est-ce qu'un meeting peut encore changer la donne, David Boëry?
Très difficile à dire. Enfin, faut toujours rappeler qu'un meeting, c'est pas forcément par rapport aux gens qui assistent au meeting que ça peut changer les choses, parce que
c'est l'impact que ça peut avoir.
C'est quelques milliers de personnes. Je veux dire, pour une élection présidentielle, les bulletins de vote, ça se compte en millions. Donc, mais c'est plus sur quel est entre guillemets le spectacle donné par le meeting, et c'est un effet indirect que ça peut ensuite avoir dans l'opinion. En même temps, vous l'avez dit, il reste que deux semaines, donc c'est très très peu de temps hein, pour changer les tendances, pour je sais pas inverser les courbes.
Jean-Luc Mélenchon.
Je sais pas si ça passe par les meetings.
Jean-Luc Mélenchon lui-même tout à l'heure a parlé d'une démonstration de force à propos de son propre meeting, évidemment, et estimait que la victoire était à la portée des insoumis. Est-ce que voilà, c'est ce type de message vers l'extérieur qu'on veut renvoyer et qui peut gagner quelques points dans les sondages éventuellement, Laurent Guez?
Moi, je suis frappé en tout cas par le. Vous disiez. David, quelques milliers de personnes, il y en a quand même des dizaines de milliers, et si on les cumule, c'est des centaines de milliers, voire des millions de gens.
Mais on les cumule, mais c'est toujours les mêmes.
On arrive quand même à des millions.
C'est souvent les mêmes.
On a labouré le territoire, et je suis absolument stupéfait, je l'avais déjà dit ici même, par l'incroyable réussite quand même toute part de l'échiquier politique de ces réunions qui pourraient paraître désuètes. Je me souviens qu'il y a 10 ans, donc dans la présidentielle 2007, où quand elle se préparait, Ségolène Royal faisait Désir d'avenir, etc. Et on pensait que la révolution digitale, qui était déjà en marche, allait translater un petit peu le débat d'idées sur les médias sociaux, sur Internet, etc. Pas du tout. Les médias sociaux sont très présents, mais de quoi ils parlent? De la vraie vie aussi. On parle de meeting, de ce qui se dit dans les émissions de télé, dans les meetings.
Laurent, vous avez raison. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde dans les meetings. Mais ce que je veux dire, c'est que le public d'un meeting, par définition, ce sont des électeurs qui sont déjà convaincus.
Est-ce qu'un meeting peut changer le cours des choses? Un meeting qui a changé le cours des choses de la présidentielle, c'est le Trocadéro de François Fillon, qui a quand même renversé absolument la tendance, et le fait qu'il devait se retirer quelques jours avant, ouais. Et que le fait qu'il ait rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes au Trocadéro a complètement renversé la tendance au sein de son propre camp, et finalement a eu un impact très important. Et je pense aussi au meeting de La République de Jean-Luc Mélenchon il y a quelques semaines, où il a réussi un tour de force aussi à rassembler énormément de gens au cœur de Paris, et qui a été le début de son envolée dans les sondages.
Il faut prendre le problème à la base. Au meeting, vous avez des convaincus, donc vous vous adressez à des gens de votre camp dont le vote est acquis. Ensuite, c'est le retentissement de ces meetings qui fait question, leur médiatisation, etc., et la manière dont ils sont reçus. Les exemples que vient de donner Eugénie Bastier sont excellents, c'était de bons meetings. Et si on parle de la journée d'aujourd'hui, apparemment, les deux meetings, celui de François Fillon et celui de Jean-Luc Mélenchon, étaient de bons meetings. Mais
justement,
pour qu'il y ait un meeting, il faut qu'il y ait un peuple. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui se déplacent, qui soient. Oui. Et on voit d'ailleurs que celui qui a beaucoup de mal dans ces meetings et qui ne fait pas de très beaux meetings, c'est Emmanuel Macron quand même, puisqu'il y a eu plusieurs salles vides. Et on se souvient de ses premiers meetings où finalement il enchaînait
des pertes. Prenez vos désirs un peu pour des réalités.
Il est très bon sur le internet, toutes les choses comme ça, parce qu'il a un électorat très connecté et avec des cadres dynamiques, mais qui se déplace pas forcément dans des grandes liesses populaires. Je pense qu'une des faiblesses d'Emmanuel Macron, c'est le meeting.
François Fillon qui, lui, aujourd'hui, en a profité à Paris pour déclarer en quelque sorte sa flamme aux fonctionnaires. C'était un peu surprenant. En tout cas, pour dire qu'il travaillerait bien 39 heures, mais qu'il y aurait des compensations salariales. Est-ce que c'est un peu une façon, voilà, de entre guillemets, de choquer, de changer un petit peu d'angle politique pour faire oublier et de commencer enfin sa campagne, Laurent Guez?
Oh, je pense pas qu'il commence sa campagne.
Ah, mais il y a beaucoup de mal à la mener, en tout cas, même la semaine dernière avec le débat.
Il y a du mal à la mener, même si... En fait, ce qui est spectaculaire dans le cas de la campagne de François Fillon, c'est la manière dont elle est complètement imperméable à ce qui se passe en dehors de lui. Je trouve, à la fois quand on regarde son score, qui est incroyablement stable, sa ligne politique, je trouve que vous exagérez un petit peu en disant qu'il change de pied, il fait des petites inflexions ici ou là, mais il reste extrêmement stable dans ses propos. Et franchement, c'est un peu la surprise. Après la mauvaise surprise Fillon... On croyait vraiment d'une probité absolue. La deuxième surprise Fillon, c'est cette stabilité, cette solidité du
Et on va continuer à en parler dans la deuxième partie des informés de France Info dans quelques minutes. À tout de suite.
France Info Trafic avec Volvo Select. Label de voitures Volvo d'occasion certifiée à retrouver sur select.volvocars.fr.
On fait un point sur votre condition de circulation avec Thomas Pontillon au PC Mobilité de Radio France à Coins en Gironde ce soir.
Oui, sur la 63, il y a eu un accident au niveau de Salles entre deux voitures. Vous ne roulez plus que sur une seule voie, ce qui crée un bouchon sur près de 8 km. Comptez une demi-heure de bouchon. Attention aussi sur l'autoroute A9 à Narbonne en direction d'Avignon. Deux poids lourds sont accidentés. Ils se trouvent sur la bretelle de sortie. Soyez très prudents dans le secteur. Enfin, c'est chargé en ce moment en région parisienne, notamment sur l'A6 pour arriver vers la capitale. Vous roulez par à-coup pendant plus d'un quart d'heure de vie sous jusqu'au périphérique, tout comme sur l'A86 dans les deux sens entre Nogent-sur-Marne et Rosny-sous-Bois.
Thomas Pontillon sur France Info.
France Info Météo avec Gautier, fabricant français de mobilier contemporain, à découvrir dans nos magasins et sur gautier.fr.
Jean-Michel Golinski à Météo France.
Demain, les conditions météorologiques n'auront rien à voir avec celles que nous avons eues aujourd'hui. Le soleil va perdre du terrain face à un ciel déjà très nébuleux le matin, des limites de la Loire au nord de la Seine, avec un vent de secteur nord turbulent et désagréable près de la Manche. En journée, les nuages vont gagner les régions de la moitié sud, n'épargnant que le golfe du Lion, la Provence et la Côte d'Azur. Ils donneront, principalement près du relief, en cours d'après-midi et en soirée, des averses et beaucoup plus isolément de l'orage. Les températures matinales seront généralement comprises entre 8 et 10 degrés. On pourra localement descendre vers 5 sur la Champagne. L'après-midi, les valeurs vont descendre de plusieurs étages par rapport à aujourd'hui au nord d'une ligne La Roche-sur-Yon-Metz avec une baisse de 7 à 9 degrés. La fraîcheur s'installera mardi sur les régions de la moitié sud.
Merci Jean-Michel Golinski. À tout à l'heure. Il est 20h30 sur France Info.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Pierre Neveu pour l'info.
Et en Égypte, le président Al-Sissi demande à son armée de se déployer pour protéger les infrastructures vitales du pays. Ce matin, deux kamikazes ont attaqué des églises coptes. Attentats qui ont fait au moins 44 morts et une centaine de blessés. Attentats en ce dimanche des rameaux qui survient trois semaines à présent d'une visite du pape François en Égypte. Entre 20 000 et 50 000 Suédois ont rendu hommage aux victimes de l'attaque au camion Bélier de vendredi après-midi à Stockholm. Manifestation pour l'amour relayée sur Facebook. Demain, un hommage solennel sera rendu aux victimes. 4 morts, 15 blessés. À Stockholm, le récit de Daniel Valo, RFI pour France Info.
C'est une image très forte, celle de milliers de personnes réunies à quelques centaines de mètres seulement de l'endroit où il y a deux jours le camion a fini sa course meurtrière. Venus entre amis ou en famille, certains avaient emporté des fleurs, d'autres des drapeaux suédois. Venir au milieu de la foule, c'est défier la peur, c'est défier le terrorisme, me disait une jeune étudiante de Stockholm. Nous avons tous besoin de nous parler et de sortir de chez nous après ce qui s'est passé. Un discours relayé à la tribune par la maire de Stockholm. Notre ville est une ville ouverte, une ville de tolérance, où le terrorisme ne pourra l'emporter, a notamment déclaré Karin Van Gerd. Plusieurs artistes se sont ensuite succédés au micro, l'un d'entre eux choisissant d'entonner l'hymne à l'amour d'Edith Piaf, l'amour contre la haine et la terreur, a expliqué le chanteur, et un hommage, a-t-il ajouté, à toutes les victimes du terrorisme, à Stockholm comme à Paris, à Nice ou partout ailleurs dans le monde. Stockholm, Daniel Valo, RFI pour France Info.
Les déclarations de Marine Le Pen sur la rafle du Veldiv dénoncée par la communauté juive de France, déclarations qui s'inscrivent dans la lignée révisionniste du Front National, dit le CRIF, et ainsi que les étudiants juifs de France. Ce matin, Marine Le Pen a déclaré que la France n'était pas responsable du Veldiv, la rafle de 13 000 juifs à Paris. S'il y a des responsables, dit la présidente du Front National, c'est ceux qui étaient au pouvoir à l'époque, ce n'est pas la France. Propos qui font bondir le président Les Républicains de la région PACA, Christian Estrosi, en niant la responsabilité de l'État français sur le Veldiv, Marine Le Pen rejoint son père sur le banc de l'indignité et du négationnisme. 265 km avec des pavés, la 115e édition du Paris-Roubaix a été remportée au sprint par le Belge Greg Van Avermaet, une course qu'il gagne à une vitesse record de plus de 45 km/h de moyenne. Le rendez-vous football de 21h, Paris Saint-Germain contre Guingamp cet après-midi, Saint-Étienne et Nantes. Match nul, un partout, 0-0 entre Toulouse et Marseille. 20h33 sur France Info, les informés reviennent. Aurélien Accard.
Les informés, Aurélien Accard.
Les informés de France Info, deuxième partie à la radio, à la télé, canal 27 de la TNT et sur les réseaux sociaux pour réagir, hashtag les informés qui ce soir s'appellent Eugénie Bastier, journaliste au Figaro, rédactrice en chef politique de la revue Limite, David Boëry, éditorialiste au service économie et sociale de France Télévisions, Laurent Guez, directeur de la rédaction du Parisien Magazine et François Ehrenwein, rédacteur en chef au journal La Croix. On a parlé de Jean-Luc Mélenchon, on a parlé de François Fillon, on en vient maintenant à Marine Le Pen. De son week-end, on pensait finalement ne retenir que son meeting agité hier à Ajaccio. Et finalement, il y a eu tout à l'heure cette phrase que Marine Le Pen a lâchée, une phrase qui risque de faire beaucoup parler.
Je pense que la France n'est pas responsable du Veldiv. Voilà. Je pense que de manière générale, plus généralement d'ailleurs, s'il y a des responsables, c'est ceux qui étaient au pouvoir à l'époque. Hein. C'est pas la France.
Marine Le Pen tout à l'heure au grand jury RTL, LCI, Le Figaro. Alors ça veut dire quoi cette phrase? J'aimerais vous entendre un peu tous sur cette sortie de Marine Le Pen. Eugénie Bastier.
Écoutez, c'est une vieille controverse qui dure depuis très longtemps en France. Est-ce que c'est l'État français qui a vraiment déporté? Personne ne nie les faits. Hein. Je rappelle qu'en cette histoire, personne ne nie que des 13 000 juifs ont été déportés.
Ma question, c'est plutôt quel intérêt elle a à le dire aujourd'hui.
Elle a intérêt à le dire parce qu'elle sait très bien que c'est toute une partie des Français qui adhèrent à cette espèce de rejet du discours de repentance et qui n'adhère pas finalement au discours de Jacques Chirac de 1995, qui était en rupture d'ailleurs avec les présidents précédents, notamment Mitterrand, de dire que finalement, là, c'est la France qui avait participer à cette déportation, là où le discours auparavant était de dire que la France était à Londres et pas à Vichy. D'ailleurs, Hollande en avait remis une couche récemment en disant que c'était un crime commis par la France en France. Propos qui avaient été critiqués pas seulement par le FN, mais par Henri Guénaud et Jean-Pierre Chevènement très virulemment. Et voilà. Et donc, elle sait très bien qu'en disant ça, elle le fait de manière complètement calculée. À mon avis, ce n'est pas du tout un dérapage. Elle sait qu'elle a un certain écho sur, finalement, contre ce discours de repentance et finalement une France qui s'assume et surtout cette volonté de récupérer l'héritage gaullien qu'on sent très très fort chez elle, évidemment.
François Ehrenwein, pas un dérapage?
Mais moi, je pense que c'est très grave ce propos. Il confirme l'intuition que beaucoup avaient, que malgré les ripollinages de façade, le Front National est enraciné quand même dans une culture politique qui consiste à ne pas accepter et le travail de l'historiographie et la réflexion sur notre passé. Pendant longtemps, la mythologie gaullienne a contribué à taire les responsabilités de Français dans les drames qui se sont produits, responsabilités de Français, d'autorité de l'État français, dans les drames qui se sont produits pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tout un travail a été fait, un travail utile par des historiens, puis au niveau politique. Ce travail, il faut le poursuivre, et non pas aujourd'hui pratiquer une anti-repentance, comme on entend dire, qui est le refus d'examiner objectivement ce qu'a été l'histoire.
Vous confondez histoire et mémoire. On peut très bien avoir un travail sur l'histoire et distinguer les mémoires. Et c'est-à-dire que dans ce cas-là, Jacques Chirac aussi était dans l'instrumentalisation de la mémoire. Chacun essaie de dire Évidemment qu'il y a un sens politique à l'interprétation des faits. Là, on n'est pas dans la négation
des
faits.
Est-ce que la mémoire révisionniste est une mémoire aussi acceptable que d'autres mémoires ?
Non, c'est pas une question de, de révisionnisme. C'est une question de dire les faits, personne ne les nie. Simplement dire est-ce que la France, qui était responsable ?
Il y a des responsables de l'État français qui ont été condamnés pour leur participation à la déportation des Juifs français.
Non, je pense que ce que dit Eugénie est peut-être exact sur le plan historique, et c'est vrai que le général avait aussi participé
Mitterrand
de
aussi,
cette histoire.
Mais pour des raisons de concorde nationale.
Mais quand même, ça sent très mauvais. De le sortir maintenant, on peut pas le banaliser comme si c'était une discussion sur la
responsabilité. On ne peut pas comparer ça au détail.
Aujourd'hui, à deux semaines du premier tour...
Ce n'est pas un problème théorique.
C'est quand même évidemment nauséabond, et la dédiabolisation assez réussie jusqu'ici, on se demande si elle est en train de se demander si elle commence à pédaler un petit peu, puisque les derniers chiffres montrent une petite inflexion. Donc voilà, elle retrouve les mauvais travers de ce parti, et moi je trouve que ça pue pour dire les choses.
Ouais. David Boyeri.
Oui, non, c'est très clair. Ça, on voit bien même juste dans la discussion uniquement sur ce plateau, juste avec quatre personnes, que les mêmes propos peuvent être interprétés de deux façons totalement différentes. Donc ça.
Et ça dépend qui les dit.
Ça jette quand même un trouble, et c'est vrai que moi j'ai du mal à comprendre stratégiquement quel est le vrai calcul qu'il y a derrière, parce qu'effectivement on est à deux semaines de l'élection, et que ça remet en cause tout le travail de, on va dire, normalisation qui avait été fait ces dernières années.
On va modéliser à perte de vue, mais il y a des tensions au Front National, des tenants d'une ligne et de tenants d'une autre ligne. Marion Maréchal Le Pen est plus l'héritière de son grand-père et porte, elle aussi, des thématiques qui sont proches de celles qui ont fait la prospérité relative de son grand-père.
Donc ce serait une déclaration qui serait plus pour...
On a quand même le droit d'avoir un jugement, enfin d'émettre des jugements sur la Seconde Guerre mondiale sans tout de suite être relégué aux fanges de l'histoire. Et je suis désolée, ces propos ne sont pas comparables à ceux de Jean-Marie Le Pen qui avait quand même minimisé la Shoah en la qualifiant de détail. C'était quand
plus
même...
Plus que minimisé, d'ailleurs.
Oui,
on a considéré...
Quasiment à la limite de la négation,
les
en
historiens,
effet.
La plupart des historiens ont considéré que le discours de Jacques Chirac que vous évoquiez tout à l'heure avait permis une avancée dans le travail sur ce qu'avait été l'expérience française pendant l'occupation, la reconnaissance de la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs.
Et donc
c'était
ça qui est remis
un moment
en cause.
Très important. Moi, j'étais au prononcé du discours de Jacques Chirac, à côté de représentants de la communauté juive. C'était un moment important dans la construction de la mémoire française. Et ce que propose Marine Le Pen, c'est ni plus ni moins qu'une régression mentale sur cette question.
Est-ce qu'il y a vraiment un débat aujourd'hui à ouvrir là-dessus en France, Eugénie Bastier ?
Écoutez, je ne sais pas s'il faut rouvrir un débat. Le débat, il existe. À chaque fois qu'on parle de ces questions, il est réouvert. Et il y a des positions très différentes. Et comme je disais, à gauche comme à droite, puisque gens comme Guénot et Chevènement ne peuvent pas être taxés quand même de fascisme. Et on avait pris position contre les propos d'Hollande. Et simplement.
Je ne pense pas que Chevènement, s'il était candidat en ce moment, à deux semaines du premier tour, il aurait ressorti ça du placard.
C'est quoi l'intérêt ? C'est de donner des gages à l'arrière-garde du FN ?
En tout cas, je pense que la question de l'identité et de la mémoire est très importante pour les Français aujourd'hui. Un des enjeux phares de la présidentielle, et que Marine Le Pen l'a bien compris, et qu'aujourd'hui elle envoie des signaux, ces signaux à un certain électorat, mais qu'il ne faut pas sous-estimer en disant c'est inutile, ça ne sert à rien, c'est
rouvrir des... Je pense que le commencement de la sagesse, c'est d'assumer son histoire, y compris les parts sombres.
Allez, on continue de parler de la présidentielle, on parlait des signaux de Marine Le Pen, on va parler des signaux d'Emmanuel Macron dans un instant. D'abord 20h40, l'info, Edouard Marguier.
L'armée égyptienne est fortement mobilisée ce soir. Elle surveille les lieux importants du pays après les deux attentats qui ont tué au moins 44 personnes aujourd'hui. Deux attentats à Tenta et à Alexandrie ont visé des églises coptes alors que les membres de cette minorité chrétienne célébraient le dimanche des rameaux. Attentat revendiqué par le groupe État islamique. Dans l'enquête sur l'attentat de Stockholm, la police suédoise affirme que le principal suspect avait des sympathies djihadistes. Ce sont les termes employés ce soir. L'enquête qui se poursuit donc, une deuxième personne est en garde à vue deux jours après l'attaque au camion bélier qui a tué 4 personnes et en a blessé 15 autres. Aujourd'hui, 20 000 Suédois ont manifesté à Stockholm pour rejeter le terrorisme. La promesse de François Fillon pour les fonctionnaires, le retour aux 39 heures aura des répercussions sur leur salaire, a lancé le candidat de la droite en meeting à Paris aujourd'hui. 18 000 personnes l'ont écouté, porte de Versailles. Se souvenir pour ne pas oublier, plus de 20 000 personnes ont commémoré
commémorer le centenaire de la bataille de Vimy dans le Pas-de-Calais, moment important de la guerre 14-18. 3600 soldats canadiens ont été tués. Le Canada est né ici, a dit Justin Trudeau, le premier ministre de ce pays. La Ligue 1 de football, deux matchs nuls aujourd'hui pour la 32e journée. Un but partout entre Nantes et Saint-Étienne et 0-0 entre Toulouse et Marseille. Et dans une vingtaine de minutes à 21h, le PSG recevra Guingamp.
France Info. 20h, 21h, les informés, Aurélien Carr.
Les informés de France Info ce soir, Eugénie Bastier, journaliste du Figaro, David Boëry de France Télévisions, Laurent Guez du Parisien Magazine et François Ehrenwein, rédacteur en chef au journal La Croix. On en vient à Emmanuel Macron, le candidat d'En Marche, qui semble craindre un peu la marche arrière en ce moment, en tout cas dans les sondages. Il n'est pas le seul, on parlait de Marine Le Pen il y a un instant. Alors pas de meeting pour Emmanuel Macron aujourd'hui, mais une interview fleuve dans le JDD, le journal du dimanche. Emmanuel Macron précise ce que serait en quelque sorte sa façon de gouverner. Il ne croit pas aux 100 jours, mais il veut quand même aller très vite, notamment avec la réforme du droit du travail, très rapidement, réforme qu'il veut mener par ordonnance. Alors, on sent dans cette interview qu'il essaye de travailler sa stature présidentielle, François Neveu.
C'est très intéressant, cette interview, parce qu'elle laisse, elle éclaire une partie de la gouvernance telle que l'imagine Emmanuel Macron, et laisse une zone d'ombre au moins aussi importante. Toutes les mesures qu'il évoque dans cet entretien, moralisation de la vie au JDD, cette moralisation de la vie publique, sa politique exigeante de nomination, etc. Tout ça sont des mesures techniques et qui font aussi consensus. À l'issue de cette campagne électorale, le monde politique ne pourra assurément plus se comporter comme il se comportait précédemment. Ça amènera forcément des réformes. Donc sur ce plan-là, il fait ce que, en prévision, tout le monde attend du prochain candidat, du prochain président de la République. La question intéressante, c'est que on voit mal dans l'interview, on voit mal Emmanuel Macron répondre dans l'interview à la question que tout le monde se pose, comment gouvernera-t-il avec des polarités aussi extrêmes que Robert Hue ou Alain Madelin? Comment est-ce qu'il composera la ligne claire qui doit être celle d'un président de la République qui conduit les affaires du pays? Cette interrogation n'a pas encore reçu, de la part d'Emmanuel Macron, un embryon de réponse.
David Boëry.
Ça va quand même un tout petit peu plus loin que uniquement des choses très techniques, parce qu'il annonce quand même sa façon de voir sa présidence, de lui présider, et d'avoir un gouvernement qui gouverne. Il donne l'idée, par exemple, de faire un discours une fois par an devant le Congrès, qui sera un peu le discours de sur l'état de la nation, un peu comme ça se fait aux États-Unis. Donc il y a quand même éléments, alors qui ne sont pas
que
techniques.
C'est une question de gouvernance, c'est pas une question politique. Quels seront ses soutiens? Quelle sera sa ligne politique?
Mais parce que de toute façon, lui rappelle que rien n'est fait, ni la présidentielle, ni la législative, et que donc il faut attendre de voir où on en sera le soir du premier tour, où on en sera le soir du deuxième tour, et puis qu'est-ce que donneront les législatives.
C'est préférable d'être clair avant l'élection.
C'est ça, à mon avis, son sujet. C'est ce qu'on entend sur son compte, c'est toujours l'absence de clarté ou un certain flou. Moi, je crois que c'est une façon d'exprimer autre chose, en réalité. Parce que je pense qu'il n'est pas flou. Je pense qu'il est assez clair sur un programme qui est peut-être pas extraordinaire, à chacun d'en juger. Mais je trouve qu'il n'est pas plus flou que les autres. Sur tous les sujets, il y a un programme. En revanche, ce que les gens veulent dire par Emmanuel Macron n'est pas clair, c'est est-ce qu'il a la stature, en réalité? Est-ce que ce personnage... là, va avoir assez de densité et de crédibilité.
En tout cas,
il essaye de corriger sur tous les sujets, c'est-à-dire corriger l'image, la stature, et corriger aussi sur le soupçon du flou, en déroulant ce matin dans l'interview du journal du dimanche toute une série de mesures qui finalement, je suis d'accord avec François, ne se font pas une armature d'une grande politique, mais en tout cas gomme l'impression qu'il ne serait pas prêt, un peu comme François Hollande, on le lui a reproché, n'était pas prêt il y a 5 ans. Là, il a une espèce de planning qui déroule, un peu comme dans une entreprise. D'ailleurs, on déroule les plans stratégiques comme ça, avec des dates, des milestones, comme on dit.
Eugénie Bastier, quelle lecture vous faites-vous de cette
interview? Oui, non, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'En Marche marche sur deux jambes, le technique et le mystique, c'est-à-dire qu'on met une petite couche de mystique et une petite couche de technique. C'est-à-dire que ça a d'un côté une espèce d'aura d'un personnage qui en effet a un certain enthousiasme, qui développe un enthousiasme autour de lui, qui a vraiment une vraie aura, et de l'autre, et qui suscite une espèce de quelque chose d'assez inédit, et en même temps, des batteries de mesure très, très techniques, très précises, et assez consensuelles finalement, et qui n'ont rien de très révolutionnaire. Et en fait, on a l'impression que c'est entre les deux, et entre les deux, il manque peut-être l'échelon intermédiaire qui serait des grandes directives, et des choses peut-être plus clivantes, qui quelque part sachent où, finalement, on puisse situer Emmanuel Macron
Un positionnement qui est révolutionnaire quand même dans notre société où il n'y a jamais eu gens qui à la fois font appel à l'attirail libéral pour libérer l'économie et à l'attirail plutôt de la gauche pour protéger les Français. Il y a quelque chose d'assez étonnant dans ce positionnement.
La démocratie n'est pas quelque chose de très novateur étant donné que c'est quasiment ce qui est appliqué en France depuis 1983.
Les choses les plus novatrices qu'il y a sur la place,
c'est pas tous en même temps.
La théorie, c'est peut-être, mais c'est pas nouveau, c'est la politique française depuis 1983, la social-démocratie.
Mais regardez ce qu'il propose sur tous les grands dossiers, sur la retraite. Je veux pas ici me faire l'avocat de Macron ni de Fillon, etc. Mais si vous faites le duel des créativités, vous n'êtes pas sûr que Macron sera le dernier. Sur la retraite, il propose une modification beaucoup plus profonde que de faire bouger les curseurs, qui est la proposition de François Fillon.
Mais la question tétanisante n'est pas la multiplicité des inspirations. Évidemment, quelqu'un d'intelligent va chercher à droite, à gauche ou ailleurs son inspiration. La question qui est posée à Emmanuel Macron, c'est comment il synthétise, sur quelle ligne il synthétise ses sources multiples. On peut puiser à de nombreuses sources, mais qu'est-ce qu'on fait de toutes ces sources?
C'est la colonne vertébrale, finalement.
En tout cas, dans cette interview du JDD et dans le JDD, on a la confirmation de quelques-uns des noms qui seront ceux des probables députés d'une majorité éventuelle d'En Marche. Et parmi ces noms, il y en a des connus, Jean-Michel Fauvergue, l'ancien patron du RAID, le mathématicien Cédric Villani, Éric Alphen, le juge d'instruction. C'est quand même des noms de la société civile qui pèsent quand même, Laurent Guez.
Oui, alors on le savait, hein, pour les trois. On ne savait pas qu'ils étaient candidats aux législatives, mais on savait qu'ils étaient derrière lui. Oui, ça fait partie d'une autre façon de montrer ses forces. Je pense que rien n'est pire pour lui qu'on lui rappelle sans cesse que ça va de Robert Rue à Alain Madelin. Et c'est pour ça qu'il
L'appelle Emmanuel Hollande, éventuellement.
Voilà, et puis l'idée de la recyclerie, comme il dit. Donc,
ni Alain Madelin ne seront candidats aux législatives.
C'est pour ça, je dis, il préfère mettre en avant, sans doute, des personnalités nouvelles, issues de la société civile, et bon, je le comprends. Moi, j'ai été frappé par la phrase de François Fillon tout à l'heure, « Je ne vous demande pas de m'aimer, mais de me soutenir. » C'est sûrement aussi un message de différenciation par rapport à Emmanuel Macron, je crois qu'il est beaucoup plus peut-être aimé que François Fillon, et François Fillon est tout à fait malin de prononcer ces mots-là, je pense. En fait, ce qu'il nous dit, Fillon, c'est attention, quelqu'un qui présente bien, etc. Et puis moi, j'ai eu mes affaires là à court terme, mais c'est pas ça le sujet. Donc là, on est dans un débat qui est extrêmement intéressant à deux semaines sur qui est le plus sérieux, le plus crédible, celui qui a le plus de matière.
C'est-à-dire le programme plutôt que la personnalité du candidat, ce qui n'est pas forcément le plus gaulliste des réflexes.
C'est ça.
On va parler de Fessenheim dans un instant. D'abord, l'info à 20h50 avec Édouard Margui.
Les propos tenus aujourd'hui par Marine Le Pen sont révisionnistes. Réaction du CRIF ce soir, le Conseil représentatif des institutions juives de France. La candidate du Front National a déclaré que la France n'était pas responsable de la rafle du Vel'Div. 13 000 juifs arrêtés à Paris en 1942. Selon elle, les responsables sont ceux qui étaient au pouvoir à l'époque, pas la France. Fin de citation. Ces attentats en Égypte sont lâches, a réagi le Conseil de sécurité des Nations Unies. Deux attaques ont tué 44 personnes dans des églises coptes à Tenta et à Alexandrie. Acte revendiqué par le groupe État islamique 3 semaines, tout juste avant l'arrivée du pape François dans ce pays. Le feuilleton Fessenheim se poursuit. Ségolène Royal a publié in extremis aujourd'hui le décret qui prévoit la fermeture de la plus vieille centrale de France en service. Elle fermera quand l'EPR de Flamanville sera mis en service, donc pas avant 2019. Les syndicats et les antinucléaires dénoncent un enfumage. François Hollande fait référence au présent. Pendant le centenaire de la bataille de Vimy dans le Pas-de-Calais, le nationalisme ne mène
qu'à la guerre, a dit le président de la République. Le Premier ministre du Canada était présent pour rendre hommage aux 3600 Canadiens tués en 1917. 20 000 personnes ont participé à ces commémorations. Le Nord et ses pavés domptés par Greg Van Avermaet. Le Belge remporte pour la première fois Paris-Roubaix. Après un sprint à 5 coureurs dans le célèbre vélodrome, le Français Arnaud Démare entre dans le top 10. Il se classe 6e.
France Info. 20h-21h, les informés, Aurélien Carr.
Les informés de France Info ce soir, Eugénie Bastier du Figaro, David Boëry de France Télévisions, Laurent Guèze du Parisien Magazine et François Ehrenwein, rédacteur en chef au journal La Croix. Venons-en à notre dernier débat, ce ne sera pas le moins électrique puisqu'on va parler d'une centrale, nucléaire la plus ancienne encore en activité du parc français, celle de Fessenheim, une centrale que François Hollande avait promis pourtant de fermer très très vite.
La centrale de Fessenheim, qui est la plus ancienne de notre parc, sera fermée à la fin de l'année 2016.
Voilà, François Hollande en 2012. Alors, il y a deux façons de voir les choses après la publication ce matin du décret qui autorise la fermeture de Fessenheim. Pour Ségolène Royal, c'est dit, c'est fait, le réacteur finira par fermer. Mais pour les syndicats d'EDF et aussi plus étrange pour les antinucléaires, eh bien, c'est de l'enfumage. Alors, qui a raison? Est-ce qu'on peut parler d'une promesse tenue par François Hollande? David Boëry.
Alors, sans aller forcément jusqu'à l'enfumage, c'est quand même au moins un habillage. Parce que c'est vrai que c'est une décision qui consiste à dire... on repousse à plus tard la décision de fermer cette centrale, puisque la condition qui est posée, c'est l'entrée en service de l'EPR de Flamanville. Pas avant 2019, c'est ce que tout le monde dit, si un jour cette centrale ouvre. Mais la vraie difficulté de tout ce dossier depuis le départ, c'est qu'il y a en fait deux logiques. Il y a une logique qui est purement politique, qui était de dire c'est un engagement, c'est une vieille centrale, il y a des risques, on a décidé de la fermer, donc on va le faire. Et puis vous avez une logique économique qui est de dire c'est une vieille centrale qui donc est totalement amortie, dans laquelle on a en plus investi plusieurs dizaines de millions d'euros pour par rapport au nouveau système de sécurité qui était demandé suite à Fukushima, etc. Donc on a une centrale qui produit de l'électricité à faible coût et on voit pas pourquoi est-ce que EDF devrait s'en priver. Parce que ce qu'il faut bien comprendre depuis maintenant 2 ans, EDF se retrouve avec des prix de gros de l'électricité qui se sont juste effondrés. Ça va un tout petit peu mieux cette année, mais les prix de gros de l'électricité se sont effondrés. Il y a la mise en place d'énormément d'énergies renouvelables qui sont totalement subventionnées et que donc du coup EDF se retrouve obligée d'acheter beaucoup plus cher de l'électricité qu'elle ne peut pas ensuite revendre au prix du marché. Et donc elle est économiquement totalement étranglée. Et c'est en fait pour ça que la fermeture de Fessenheim a traîné et qu'elle est encore repoussée, parce que économiquement, ça n'est pas viable pour EDF.
Laurent Guèze.
Je suis extrêmement proche de l'opinion de mon confrère David. C'est une promesse non tenue du président. Et à mon avis, il a raison de ne pas la tenir. C'est une promesse non tenue, il n'y a rien à dire. Il avait promis qu'avant la fin de l'année, etc. Et il avait d'ailleurs... pris cet engagement uniquement parce qu'il y avait un accord avec les écologistes, accord même qui remontait à Martine Aubry. C'était même avant lui que ces engagements avaient été pris pour pouvoir gouverner ensemble.
Je crois que François n'est pas d'accord avec vous.
Non, mais je termine justement. Et je crois que vous avez tout à fait raison de dire que c'est pas parce que c'est la plus ancienne, puisqu'effectivement elle est entrée en service en 1977, c'est juste il y a 40 ans, si je ne me trompe pas, c'est la plus ancienne, mais elle marche bien. Et pourquoi il faudrait la fermer? Pour des raisons idéologiques. Soit on veut plus du tout de nucléaire, et alors on décide de faire un mouvement façon Merkel très très radical de développement des nouvelles énergies, et on ferme à marche forcée, etc. Mais là, de focaliser sur une, parce que c'est la plus ancienne, mais elle fonctionne encore bien, et c'est très très dommage de fermer quelque chose qui marche, à mon avis.
Je pense qu'il a raison de ne pas tenir sa promesse.
J'en reviens à l'expression enfumage, elle est intéressante. Mais merci à David pour toutes ces lumières sur ce dossier. Il y a un point quand même de droit là. Ce décret est pris, mais EDF, si jamais une autre centrale est arrêtée, pourra considérer que Fessenheim est nécessaire pour tenir les engagements de production fixé par la loi de transition énergétique.
Donc,
l'enfumage, c'est ça. On a un décret, mais qui ne s'appliquera que si EDF considère.
C'est bien pour ça que je parle d'habillage, c'est de dire politiquement la promesse est tenue, sauf que en fait, dans le détail, Fessenheim n'est pas fermé.
Et pour répondre à David, je lui recommande d'aller voir les habitants de Bure dans la Meuse, qui doivent accueillir
le centre d'enfouissement des déchets ultimes.
Voilà. On verra si l'enthousiasme des habitants de Bure est le même que celui de David sur l'intérêt de l'énergie nucléaire.
Eugénie Bastière.
Évidemment, et c'est bien d'avoir mentionné Bure parce que ça montre, c'est vraiment le symbole de l'impasse qu'est le nucléaire, puisque ça crée des déchets quand même. Enfin, on nous fait croire que c'est une énergie propre, mais qui crée quand même des déchets qui durent extrêmement longtemps et dont on ne sait pas comment se débarrasser.
On ne sait même pas comment les stocker.
On ne sait même pas comment les stocker, comment avertir les générations futures qu'on les a stockés à ces endroits-là. Donc évidemment que.
On ne sait pas stocker les déchets nucléaires en 2017. Je suis quand même assez étonné.
Oui, on sait les stocker, mais pas. On ne sait pas les faire disparaître.
On peut en tout cas peut-être
s'y et aller déménager à Bure.
De la politique en se mettant toujours dans la peau de celui
des
qui a la décharge
les conséquences
de chez lui,
des décisions politiques, peut-être.
C'est très compliqué de pas faire de la démagogie.
On peut peut-être citer juste de façon informative que la centrale de Brennilis, qui est la première à avoir été arrêtée en France en 85, est toujours pas totalement démantelée. Peut-être que ça.
Non, après, ce qui est choquant, c'est de la fermer rapidement. À l'arrache, si je peux me permettre cette expression un peu vulgaire, mais c'est vraiment l'impression que ça donne.
C'est-à-dire
que c'est à deux semaines des présidentielles.
Sur le décret, on est bien d'accord.
Inutile.
On fera une autre émission sur le sujet.
Pour y revenir, effectivement. Allez, les informer, ça se termine. Merci à nos invités ce soir. Eugénie Bastier du Figaro, David Boëry de France Télévisions, Laurent Guez du Parisien Magazine et François Hernonwein, rédacteur en chef de La Croix. Rendez-vous demain à la même heure à 20h pour un nouveau débat sur l'actualité. Ce sera avec Jean-Mathieu Pernin. Bonne soirée à tous.